Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris.
Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal en français facile avec ce soir Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Et dans l'actualité de ce jeudi, il y a le G7 de Biarritz. Pendant que les opposants sont réunis en contre-sommet, Emmanuel Macron prépare la réunion des chefs d'État et de gouvernement.
Boris Johnson à Paris, le Premier ministre britannique, veut un nouvel accord de Brexit. Les discussions continuent, mais les solutions tardent à se matérialiser.
Les consultations politiques en Italie après la chute du gouvernement, elles sont terminées, mais elles vont continuer. Le président Sergio Mattarella a décidé de donner un peu plus de temps au parti.
Des incendies géants en Amazonie, la forêt brûle au Brésil et en Bolivie, qui tentent de sauver ce qui peut l'être dans la faune et dans la flore.
Le journal en français facile.
Alors que le G7 n'a pas encore commencé, ils sont déjà plusieurs milliers depuis mercredi à organiser leur contre-sommet.
Cela se passe à Hendaye, à 30 km au sud de Biarritz. Beaucoup dorment sur place sous des tentes dans ce qu'ils appellent le campement. La journée des ateliers et des cycles de réflexion sur l'écologie, l'égalité homme-femme ou encore l'immigration sont organisés. Écoutez cette jeune femme qui ne veut pas donner son nom. Elle a 24 ans, elle vient de Bayonne, tout près de Biarritz, et elle a posé deux jours de congé pour venir à ce contre-G7.
Je suis passée au campement du contre-sommet, je me suis assise, j'ai beaucoup débattu avec les gens, voir pourquoi ils étaient là, pourquoi j'étais là. Puis tout le monde se mélange, il y a les gilets jaunes, les altermondialistes, les antispécistes, les féministes, et c'est un gros moment de communion. Avec certaines personnes, je ne suis pas d'accord, avec d'autres, beaucoup plus. Moi, par exemple, je mange de la viande. Et c'est un gros point de désaccord, on va dire. Pourtant, je fais attention à ce que je mange comme viande, j'achète local. Pareil pour les légumes, j'achète tout de saison, le plus possible local. Mais voilà, les antispécistes, ils sont pas d'accord et je comprends tout à fait et je respecte leur engagement. Mais voilà, on peut pas avoir tous les mêmes engagements et défendre les mêmes choses. Sinon, ça n'existerait pas ce genre de contre-sommet. Puis on vient ici aussi pour exprimer nos désaccords entre militants et surtout notre désaccord envers ce G7. L'organisation de ce G7 nous coûte des millions et il n'en ressortira rien de bon, donc je ne trouve pas l'intérêt de faire ça, c'est presque une offense.
Des propos recueillis par Pierre-Olivier. Avant de recevoir les chefs d'État et de gouvernement, le président français accueille les représentants de la société civile demain pour recueillir leurs recommandations avant le sommet. Il accueillera aussi le ministre iranien des Affaires étrangères. L'Iran devrait figurer en bonne place des discussions en pleine tension dans la région du Golfe.
La suite de la tournée européenne de Boris Johnson.
Après Berlin hier, le Premier ministre britannique était à Paris aujourd'hui. Il a déjeuné avec Emmanuel Macron. Boris Johnson veut des aménagements avant le Brexit prévu le 31 octobre. Les deux hommes ont convenu de continuer à discuter. Hier, la chancelière allemande Angela Merkel indiquait qu'un accord était toujours possible.
Le Premier ministre indien Narendra Modi est lui aussi en France.
Et il rencontre lui aussi le président français ce soir et il doit participer au sommet du G7 de Biarritz. L'occasion pour Emmanuel Macron d'évoquer la question du Cachemire, région séparatiste à majorité musulmane. Le 5 août dernier, New Delhi a unilatéralement, de son propre chef, révoqué l'autonomie du Cachemire et imposé un couvre-feu inédit. Depuis plus de deux semaines, la population reste partiellement coupée du monde. Les téléphones mobiles et l'internet sont coupés et les déplacements restreints par des barrages militaires. Surtout, les autorités ont arrêté plus de 4000 personnes, politiciens de tous bords ou militants des droits de l'homme. Notre correspondant en Inde a réussi à rencontrer l'une des dernières politiciennes du Cachemire encore en liberté. Pour elle, cette répression inédite ressemble à la colonisation israélienne en Palestine. Sébastien Farsi.
Sheila Rachid est horrifiée et inquiète. Elle vit à New Delhi et rassemble les histoires de violences, tortures et arrestations arbitraires qui se déroulent au Cachemire. Des récits rapportés par ceux qui en reviennent, vu que toutes les communications avec la région sont coupées. Le président de son parti, du Mouvement pour le peuple du Cachemire, a également été arrêté sans raison officielle et personne ne sait où il est.
Selon la loi indienne, les autorités doivent présenter un détenu à un juge dans les 24 heures qui suivent son arrestation. Le juge décide alors d'autoriser ou non son maintien en détention. Or, les tribunaux sont fermés, cela veut dire que toutes les arrestations sont illégales. Le gouvernement agit donc comme un gang de kidnappeurs et si quelqu'un disparaît, il peut nier qu'il l'avait arrêté.
Sheila Rachid considère que cette répression inédite des droits fondamentaux des Cachemiriens ressemble terriblement à ce que le gouvernement israélien fait subir aux Palestiniens.
Comme les Israéliens, ce gouvernement perçoit le Cachemire comme une terre sacrée qui doit être reconquise aux musulmans. Et pour cela, il n'a aucune considération pour le peuple du Cachemire ou son identité. Sur le terrain, il utilise d'ailleurs de la technologie militaire israélienne.
Sheila Rachid vient de déposer un recours devant la Cour suprême pour lui demander de rétablir l'autonomie du Cachemire. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
La situation politique en Italie.
Le président Sergio Mattarella va prolonger les consultations pour tenter de former une coalition et un gouvernement. C'est ce qu'il a décidé après 2 jours de rendez-vous avec les différents partis politiques. L'Italie vit une crise politique depuis que la coalition entre le mouvement anti-système 5 étoiles et la Ligue d'extrême droite a explosé à l'initiative de Matteo Salvini, patron de la Ligue.
La crise entre le Japon et la Corée du Sud.
Séoul annonce la fin d'un accord de partage de renseignements militaires existant avec Tokyo sur fond de tensions diplomatiques et commerciales entre les deux alliés des États-Unis dans la région. Les États-Unis disent regretter cette décision.
La forêt amazonienne brûle, Guillaume.
C'est le cas au Brésil, mais aussi en Bolivie, où ces dernières semaines, quasiment 1,5 million d'hectares a disparu. Une perte inestimable pour la faune et la flore exceptionnelle du pays qui lutte pour maîtriser les flammes. Correspondance à La Paz d'Alice Campagnol.
Ce sont 3 foyers d'incendie qui se sont ravivés ces dernières heures dans l'extrême est du pays, à la frontière avec le Paraguay. Alors que le président Evo Morales avait affirmé il y a quelques jours que les feux étaient maîtrisés, les vents violents de la saison ont fait repartir les flammes. Si des centaines de militaires et de volontaires sont sur place pour aider à éteindre les incendies, ce n'est pas suffisant et le gouvernement, après avoir créé un cabinet d'urgence environnementale, a annoncé l'arrivée d'un Boeing 747 supertanker aujourd'hui qui pourra peut-être gérer la catastrophe depuis le ciel. Pour le moment, ce sont 500 000 hectares de forêt qui sont partis en fumée, l'équivalent de 2 fois l'île de la Réunion. Ces feux sont dus à ce que l'on appelle ici le chaqueo, la culture sur brûlis utilisée pour nettoyer et fertiliser des terrains destinés à l'agriculture et à l'élevage. Une technique très controversée et peu contrôlable, mais qui ne semble pas être condamnée par le président Evo Morales, qui a affirmé « Mais si nous ne brûlons pas, comment allons-nous cultiver ?» Alice Campagnol, La Paz, RFI.
Et ce soir, le président français Emmanuel Macron estime que les incendies en Amazonie constituent une crise internationale et il donne rendez-vous aux membres du G7 pour parler de cette urgence dans 2 jours.
Les microplastiques dans l'eau potable n'entraînent pas de risque pour la santé ?
C'est l'Organisation mondiale pour la santé, l'OMS, qui le dit, qui se veut rassurante. Dans un rapport publié aujourd'hui, l'agence onusienne présente la synthèse des dernières connaissances sur les microplastiques, c'est-à-dire les particules dont la taille est inférieure à 5 mm, dans l'eau du robinet et l'eau en bouteille. Christine Zibert.
Est-ce dangereux pour la santé de boire du plastique ? Les chercheurs ont surtout analysé 3 aspects. Le risque d'ingérer ces petites particules de plastique présentes dans l'eau, les risques chimiques ou encore les risques liés à la présence de bactéries. Et d'après le rapport de l'OMS, l'ensemble des risques est faible. Concernant l'ingestion, en principe, les microplastiques relativement grands, plus d'un 1/10 mm, ne sont pas absorbés par l'organisme humain. Les particules plus petites risquent en revanche d'être absorbés. Mais les données scientifiques concernant ce sujet sont encore très limitées et cela vaut également pour les autres aspects de l'étude, le risque chimique et la présence des bactéries. Le principal enseignement paraît donc être l'urgence de mener des évaluations plus approfondies et en attendant de ralentir la production et le rejet du plastique afin de préserver les écosystèmes aquatiques. Il faut aussi mieux traiter les eaux usées, disent les experts. Cela permettrait de retirer une grande partie des microplastiques, mais la grande majorité de la population mondiale ne dispose pas de système adapté pour traiter efficacement les eaux usées.
Un classement sans suite, c'est le résultat de l'enquête sur les soupçons de conflit d'intérêts autour du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. L'enquête avait été ouverte le 4 juin 2018 après la publication de plusieurs articles de presse sur un éventuel conflit d'intérêts entre les anciens postes du bras droit d'Emmanuel Macron dans la haute fonction publique et ses liens familiaux avec l'armateur MSC. RFI, 22h10 à Paris.